La prédication protestante. Chaque dimanche, un pasteur propose le commentaire d'un texte de la Bible centré sur le Christ.
Bonjour à tous nos auditeurs et auditrices, bienvenue dans cette émission La prédication protestante. Je suis Thierry Rouquet, le pasteur de l'église protestante baptiste de Toulouse, et je vous propose pour ce jour un texte qui se trouve dans une des épîtres que Paul a écrites, l'épître aux Corinthiens, le chapitre 15, les versets 12 à 19, et je lis dans la traduction la Bible en français courant. Nous prêchons donc que le Christ est revenu d'entre les morts. Comment alors quelques-uns d'entre vous peuvent-ils dire que les morts ne se relèveront pas? Si tel est le cas, le Christ n'est pas non plus ressuscité. Et si le Christ n'est pas ressuscité, nous n'avons rien à prêcher, vous n'avez rien à croire. De plus, il se trouve que nous sommes de faux témoins de Dieu, puisque nous avons certifié qu'il a ressuscité le Christ. Or, il ne l'a pas fait, s'il est vrai que les morts ne ressuscitent pas. Car si les morts ne ressuscitent pas, le Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si le Christ n'est pas ressuscité, votre foi est une illusion et vous êtes encore en plein dans vos péchés. Il en résulte aussi que ceux qui sont morts en croyant au Christ sont perdus. Si nous avons mis notre espérance dans le Christ uniquement pour cette vie, alors nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. L'apôtre Paul commence cet enseignement, en tout cas dans ce texte-là, au verset 12, en disant « Nous prêchons donc que le Christ est revenu d'entre les morts ». Paul va développer tout au long de ce chapitre 15 la doctrine de la résurrection, la croyance en la résurrection du Christ et en la résurrection aussi des croyants. Et pour étayer cette croyance, l'apôtre Paul affirme un événement fondamental, c'est justement la résurrection de Jésus, celle du Christ, qui est attestée par de nombreux témoins, d'où la première personne du pluriel, « Nous prêchons donc que le Christ est revenu d'entre les morts ». L'apôtre répond à des objections, certainement de la part de chrétiens de cette ville de Corinthe, qui avaient du mal à croire à la résurrection des corps. Ces chrétiens étaient certainement des chrétiens d'origine grecque, parce que les chrétiens d'origine juive, eux, n'avaient pas de mal à croire à la résurrection des corps, parce que cela faisait partie de leur religion ancienne, le judaïsme, en tout cas pour ce qui est de l'école des pharisiens, croyait à la résurrection des corps et l'enseignait. Par conséquent, pour eux, la résurrection de Jésus ne devait pas leur poser un problème, en tout cas un problème, théorique ou théologique. Mais les chrétiens d'origine grecque, parce qu'il y avait aussi dans cette ville de Corinthe, et il y avait beaucoup dans cette église, cette communauté chrétienne, des personnes qui étaient de culture et d'origine grecque, eux par contre, n'y croyaient pas, ou difficilement. Ils croyaient tout au plus à une transformation spirituelle du chrétien ici-bas, mais pas à une transformation au point de croire à une résurrection corporelle, une transformation qui aurait pour conséquence la résurrection de leur propre corps à la fin des temps. Ces chrétiens d'origine grecque étaient dans une sorte de spiritualisme, c'est-à-dire une croyance en la supériorité de l'esprit sur le corps, et donc une fois désincarné, à partir de là, était-il bien nécessaire de promouvoir une résurrection des corps, puisque l'esprit est supérieur au corps. Or, l'apôtre Paul affirme ailleurs que le corps est pour le Seigneur, et le Seigneur pour le corps. Dieu ne sauve pas en dehors de sa création. Certes, il crée du nouveau, mais ce nouveau, c'est une création nouvelle, une création purifiée du péché. Elle est nouvelle en cela qu'elle est purifiée de la souillure du péché originel. C'est en cela que nous sommes une nouvelle création et que les choses anciennes sont passées et que toutes choses deviennent nouvelles. La vie nouvelle que nous recevons à notre conversion aura pour ultime conséquence la résurrection des corps. Et c'est bien de cela dont il s'agit dans ce passage. Paul associe à son ministère de prédicateur les apôtres qui sont à Jérusalem. Nous prêchons que le Christ est revenu d'entre les morts. Il s'associe aux apôtres pour montrer que ce n'est pas une doctrine personnelle ou un dada théologique. La résurrection fait bien partie du message originel de l'Évangile. Paul ne prêche pas une invention, un gadget théologique qui sortirait de son chapeau. Prêcher Jésus, c'est prêcher le ressuscité, celui qui vit au siècle des siècles. Celui qui confesse Jésus doit aussi confesser qu'il est le ressuscité. Dans les versets suivants, l'apôtre va expliquer pourquoi il est fondamental de confesser la résurrection de Jésus. Au verset 14, il affirme que si le Christ n'est pas ressuscité, alors notre prédication, notre proclamation deviendrait inutile et notre foi serait vaine. La prédication ou kérigme dans le grec est un terme qu'il faut comprendre comme étant le résumé, l'essentiel de la foi chrétienne. Ce qu'il faut croire, en tout cas, pour se dire chrétien et être dans cette espérance du salut. Ce qui a été enseigné, ce kérigme, ce message a été enseigné par le Christ, il a été prêché par les apôtres et l'Église ancienne. Et d'ailleurs, ce message, l'apôtre Paul le résume dans les versets, les premiers versets de ce chapitre, le contexte de ce texte que nous venons de lire, où Paul affirme que les trois clauses importantes pour se dire un chrétien authentique est de croire que le Christ est mort pour nos péchés. Il précise toujours selon les Écritures, pour bien affirmer que ce qui est enseigné par les apôtres et par lui-même n'est pas leur propre invention, mais s'inscrit dans la continuité de la foi d'Israël et des textes anciens du Premier Testament. Donc que le Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli, deuxièmement, selon les Écritures, et qu'il est ressuscité, le troisième jour, toujours selon les Écritures. La résurrection de Jésus, donc, est un point fondamental du message apostolique. Et si la résurrection n'a pas eu lieu, alors ce message apostolique est vide et faux. Il vide l'essentiel de ce qui fait la force de l'Évangile et sa puissance, cet Évangile qui sauve, qui transforme les cœurs. Alors, ce message ne serait qu'une pure illusion si tel était le cas, c'est-à-dire si Christ n'était pas ressuscité. Dans ce cas, la prédication de l'Évangile n'aurait aucune puissance pour changer des vies. Si Jésus n'est pas ressuscité, eh bien les prédicateurs de l'Évangile n'ont rien à offrir, parce qu'il n'y a rien à attendre après la mort. Il n'y a aucune raison d'espérer. Si Jésus n'est pas ressuscité, eh bien Dieu n'a pas vaincu la mort. La mort a gagné. Si Jésus n'est pas ressuscité, eh bien Dieu est menteur, Dieu a perdu, il n'a pas de puissance face à la mort, puisqu'il n'a pas pu la vaincre. La mort étant une conséquence du péché, si Dieu n'a pas pu ressusciter Jésus, alors Dieu n'a pas la puissance pour nous sauver nous-mêmes du péché. Nous restons sous la condamnation du péché. Puisque le salaire du péché, c'est la mort. Et l'apôtre Paul dit que le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Sauveur. Il nous sauve de la mort. La mort et le péché est un quasi-synonyme. Au verset 15, l'apôtre énonce une autre raison pour laquelle il est important de croire en la résurrection. Paul dit qu'il se trouve que si Christ n'est pas ressuscité, il serait, lui et les apôtres, de faux témoins de Dieu, puisqu'ils auraient certifié que Dieu aurait ressuscité le Christ. Si Jésus n'est pas ressuscité, les apôtres auraient donc donné un faux témoignage. Ils auraient menti. Voilà un argument de plus. En attribuant à Dieu un miracle qu'il n'aurait pas fait, les apôtres et Paul auraient porté un faux témoignage. Et on sait dans la Bible l'importance du témoignage et de sa véracité. Les juges devaient être impartiaux, refuser les pots de vin. Et Dieu, étant un Dieu de vérité, son trône étant bâti sur la justice et l'équité, porter un faux témoignage au nom de Dieu est grave. Porter un faux témoignage sur Dieu revient à prêcher un faux Dieu, finalement, qui n'a rien à voir avec le Dieu de la Bible. Et le Dieu que nous révèle la Bible, celui que nous révèlent aussi les apôtres, est un Dieu qui accomplit ce qu'il dit. Il a manifesté depuis la création ses actes de salut, en sauvant le peuple d'Israël du joug égyptien, de l'esclavage, du péché. Dans l'histoire des hommes, Dieu a montré, tout au long de l'histoire biblique du peuple d'Israël, ses actes de salut en accomplissant ce qu'il promettait. La résurrection, c'est le dernier acte de salut, ce dernier acte qui inaugure la nouvelle création dans laquelle nous entrons par la résurrection de Jésus. Pour tous ceux qui croient, justement, comme l'a dit Paul dans les premiers versets de ce chapitre, pour tous ceux qui croient, qu'il est mort pour nos péchés, qu'il a été enseveli, autrement dit qu'il est réellement mort, et donc qu'il est ressuscité. D'autre part, si les apôtres auraient porté un faux témoignage sur Dieu, comment alors pourrions-nous croire comme véridique tout ce qu'ils ont pu enseigner dans les évangiles et les épîtres? Une autre raison évoquée par l'apôtre se trouve au verset 17, toujours pour contrer les objections de ceux qui nient la résurrection des corps. Paul dit que si le Christ n'est pas ressuscité, au verset 17, notre foi est une illusion et que nous serions encore totalement esclaves de nos péchés et sous la condamnation de nos fautes, sans espérance, sans pardon assuré. Paul va développer la pensée du verset 14 dans des termes plus forts. Sans la résurrection du Christ, notre foi est sans force. Notre foi serait impuissante. Sans la résurrection du Christ, nous resterions dans nos péchés. Pour quelle raison? Eh bien, parce que ce qui anime la vie chrétienne, c'est-à-dire au sens étymologique du terme animer, donner la vie, ce qui donne la vie à la vie chrétienne, c'est justement cette vie du ressuscité, celle qu'il nous communique par son esprit, puisque étant ressuscité, étant monté à la droite du Père, assis à la droite du Père, il envoie de la part du Père le Saint-Esprit, il l'a promis. Et donc, si nous croyons en la résurrection du Christ, nous savons aussi que par cette résurrection, Dieu accomplit sa promesse de nous envoyer son esprit, esprit de vie, esprit d'amour qu'il répand dans notre cœur. Esprit qui nous fait naître de nouveau, qui nous régénère et qui nous conduit dans cette nouvelle vie pour ne plus vivre selon cette ancienne vie que Paul appelle ailleurs le vieil homme, où nous allons vivre de cette vie nouvelle. Laquelle vie nouvelle? Eh bien celle justement que le Christ a inauguré par sa résurrection. Cette nouvelle vie, c'est celle de la résurrection, c'est celle que l'Esprit Saint nous communique. C'est ce que Paul développe ailleurs dans une autre de ses lettres, où il nous dit que comme le Christ est ressuscité, eh bien nous aussi, par cette vie que nous recevons, nous pouvons marcher sous la gouvernance nouvelle de cette vie, sous le régime nouveau de cette vie. Et que si nous avons été unis à lui, c'est-à-dire si par la foi nous nous identifions à sa mort, eh bien nous aussi nous passons en quelque sorte par cette mort à cette ancienne vie pour vivre de la vie du ressuscité, pour vivre une vie de résurrection semblable à la sienne dès maintenant. Si nous sommes morts avec le Christ, Paul nous dit que, eh bien, nous pouvons croire que nous vivrons aussi avec lui. S'il est mort, c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes, et s'il vit, il vit pour Dieu. Eh bien, nous-mêmes, Paul nous dit que nous devons nous estimer comme morts pour le péché et vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Même si, bien sûr, cette résurrection des corps n'est pas encore advenue, dès maintenant, nous expérimentons, par la vie du ressuscité que nous communique l'Esprit Saint, nous expérimentons cette vie nouvelle que nous vivrons de façon plus concrète à la résurrection des corps. Ce texte de l'Épître aux Romains, au chapitre 6, où Paul parle de cette identification, de cette union au Christ, nous décrit comment la puissance de vie de la résurrection devient le moteur pour les croyants de leur vie. Cette puissance, c'est elle qui va nous permettre de marcher dans la sainteté et de porter un fruit nouveau. La résurrection, c'est ce qui est nouveau, ce qui nous amène à une vie différente, une vie qui nous sort des habitudes, de la mort, des habitudes même. S'il n'y a pas eu cette résurrection du Christ, alors, eh bien, nous n'aurions aucune espérance et nous resterions soumis au pouvoir du péché, au pouvoir de notre ancienne vie. Mais celui qui croit au Fils, comme le dit l'apôtre Jean, a la vie éternelle au présent et la vie du ressuscité. C'est cette vie abondante qui a ses effets positifs dès maintenant. Jésus a dit « Je veux que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Non pas qu'elle puisse avoir peut-être l'espoir de l'avoir dans un avenir plus ou moins lointain. Non, je veux que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Et c'est cette vie de résurrection qui coule dans la vie du croyant dès maintenant et qui nous permet de vivre cette vie en abondance. Abondance non pas matérielle, mais abondance de joie, abondance de vie, de paix et d'amour. Au verset 19, Paul nous dit que si nous avons mis notre espérance dans le Christ uniquement pour cette vie, alors nous serions les plus à plaindre de tous les hommes. Évidemment, puisque cette résurrection nous amène dans une vision de l'au-delà, une vision qui dépasse, qui transcende la vie actuelle, la vie matérielle, celle que nous pouvons voir. Et c'est le dernier argument de l'apôtre Paul pour convaincre encore ceux qui seraient réticents ou qui auraient du mal à croire en la résurrection des corps. On peut prendre ce verset aussi à l'opposé, ce verset 19, en disant « Si nous avons mis notre espérance dans le Christ, non pas seulement pour cette vie, mais aussi pour la vie au-delà, alors nous sommes les plus enviés de tous les hommes. » Notre espérance dans le Christ, effectivement, c'est aussi l'espérance de ressusciter un jour pour vivre une autre vie dans le cadre de la nouvelle création et dans la présence permanente de Dieu. Ce que les théologiens appellent la béatitude, ce face-à-face avec Dieu. Là où il n'y aura plus ni pleurs, ni tristesse, ni mort, ni échec, ni deuil. La finalité de notre existence dépasse le cadre étroit de notre horizon terrestre, visible, matériel. En ayant cette vision d'une vie du ressuscité, nous vivons notre vie actuelle comme une préparation pour cette autre existence. Cette espérance change notre manière de voir la vie présente. Le regard de l'espérance chrétienne nous montre qu'on ne peut pas absolutiser notre vie terrestre, car celle-ci est passagère. On ne peut pas voir désormais cette vie terrestre comme étant une finalité, comme s'il n'y avait rien après. Mais nous la voyons comme une transition. En même temps, cette espérance nous motive pour aimer et servir notre prochain ici-bas, dans cette vie. Alors la critique de Nietzsche dans son essai « Ecce Homo » où il nous dit que l'espérance chrétienne, en fait, détourne l'homme de l'engagement sur terre et qu'elle serait une injure faite à la vie et à l'homme. Cette thèse-là tombe à plat. Pourquoi? Parce que l'histoire nous démontre que justement les personnes qui ont fait le plus pour le monde présent étaient celles qui pensaient le plus au monde à venir. Car l'espérance, telle que la décrit ce texte, l'espérance de la résurrection des corps, de cette vie qui nous dépasse, cette vie extraordinaire que nous promet Dieu, elle est un moteur, une motivation, une puissance de vie extraordinaire qui a pu conduire des hommes et des femmes à s'investir pour leur prochain ici-bas. Et l'apôtre Paul le dit très bien dans un autre texte où il nous parle aussi de ce moteur qu'est l'espérance en la résurrection, quand il nous dit que de ne pas mettre nos corps à la disposition du péché, c'est-à-dire loin d'accomplir la volonté de Dieu, mais de nous mettre nous-mêmes au service, de mettre nos membres au service de Dieu comme des vivants revenus d'entre les morts. Des vivants revenus d'entre les morts, vous m'entendez bien. Et il nous encourage à mettre notre corps, littéralement, tout entier au service de Dieu, comme un instrument pour la justice, c'est-à-dire pour pratiquer le bien à l'image du Christ. Alors, nous ne sommes pas des morts vivants, mais des vivants revenus d'entre les morts. Des vivants revenus d'entre les morts, à cause de notre foi à la résurrection du Christ. Dès maintenant, nous portons cette espérance en nous. Et pour celui ou celle qui, ce matin, serait confus dans sa foi, dans le doute sur la vie éternelle, alors je l'encourage vraiment à écouter cet appel du Seigneur. C'est moi qui suis la résurrection et la vie. C'est le Christ qui te parle, c'est lui qui te dit de mettre sa foi en lui. Mets ta foi en lui. Car comme l'a dit le Christ, même si tu meurs, tu vivras. Et quiconque vit et met sa foi dans le Christ ne mourra jamais. Crois-tu cela? Le Christ attend ta réponse. Il t'attend, il te tend les bras pour te conduire dans cette vie du ressuscité. Amen.
Je vois l'espace qui nous sépare et la montagne insurmontable. La nuit se lève sur mon désespoir, j'appelle à toi quand tout est noir. Dans les ténèbres, ta bienveillance toujours éclaire mon âme en paix. Tout est accompli tel qu'il est écrit. Jésus-Christ, mon espérance. Inconcevable miséricorde, grâce insondable à l'infini. Le Dieu des âges, laissant sa gloire pour ta marante et mon père. Jésus-Christ, notre